Voilà, alors mon schéma part de la messe dans sa double, dans sa double table de la parole et de l'Eucharistie, ou la table du corps, ce qu'on avait vu, vous vous souvenez, dans la partie sur l'Eucharistie. Et donc cette double table de la messe, de l'Eucharistie, qui se trouve donc le sommet d'une montagne, qui est la vie chrétienne, nous l'avons compris, dans la scrutation de la parole, ou dans le service, dans la parole de Dieu, et dans le service du corps. Alors ça veut dire quoi, cette montagne qui trouve son sommet dans la liturgie, ou qui trouve son fleuve, qui trouve sa source dans la liturgie? Eh bien, c'est que la scrutation, la proclamation de la parole de Dieu et l'explication de la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, à la lumière de la tradition, et la tradition, là, c'est non seulement le prêtre qui l'apporte dans l'homélie, qui peut citer tel ou tel auteur de la tradition, mais c'est aussi la liturgie elle-même, puisque la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, elle est précédée par la prière, ce qu'on appelle la collecte, la grande prière du prêtre, qui donne le thème un peu du dimanche, et puis elle est encore précédée par le Gloria et par le Kyrie. Donc là, cette parole de Dieu, elle est portée elle-même par une tradition qui est la liturgie, et puis c'est aussi complété par ce que le prêtre apporte dans l'homélie, de références qui ne sont pas directement de la parole de Dieu, mais qui éclairent la parole de Dieu. Donc ça, c'est dans la messe. Et du coup, ce sommet, cet aspect du sommet de l'Eucharistie, doit trouver sa montagne dans la vie chrétienne. Donc c'est le sens du fait de travailler les Écritures, lire la parole tous les matins, je ne sais pas quoi, en allant dans son RER, en la recevant par son smartphone ou je ne sais pas quoi, ou lire son priant en église tranquillement le soir avant de se coucher, ou encore mieux, ouvrir sa Bible et plonger dans une lecture continue d'un livre biblique, etc., etc. Ça veut dire aussi prier à partir de la parole de Dieu dans sa prière personnelle, mais aussi ça va jusqu'à prendre le soin, par exemple, avec ses petits-enfants, de lire un livre de la parole de Dieu, tout ce qui peut se faire pour les enfants, pour les ouvrir à la parole de Dieu, par exemple, ou encore faire partie d'un groupe de partage de la parole de Dieu, etc., etc. Donc c'est finalement la place des Écritures, de la parole de Dieu, d'un point de vue personnel et d'un point de vue communautaire, à différents niveaux, dans l'étude, la célébration, la parole, le partage, la prière, dans nos vies chrétiennes. Donc ça, c'est de même que la parole de Dieu, c'est à peu près la moitié de la messe, une grosse moitié finalement. Bien, d'une certaine manière, on pourrait dire que la place de la parole de Dieu doit être aussi conséquente. Alors les pères de l'Église, notamment Saint Césaire d'Arles, exhortent d'une façon aujourd'hui totalement dingue. Enfin, Saint Césaire d'Arles dit au IVe siècle, « Ça ne sert à rien que je fasse une homélie si tous les soirs, tous les jours, vous ne travaillez pas les Écritures en famille. » Et quand c'est l'hiver, il faut allumer une chandelle, dit-il, pour poursuivre les travaux. En famille, oui. Donc, on voit qu'on est très très loin de cette tradition, même dans les milieux chrétiens les plus fervents, on en est très très loin. On a de la marge, on va dire. Et même les prêtres, passent plus ou moins de temps à cela. Hein. On passe quand même un peu de par le ministère, on est un peu quand même dans l'affaire. Alors, le service du corps, donc là, donc ça s'exprime dans la prière eucharistique, qui va commencer par l'offertoire, et puis ensuite la préface, toute la prière eucharistique, donc qui est dite par le prêtre comme tête du corps, on pourrait dire, comme celui qui a la tête du corps, c'est-à-dire le Christ lui-même, et qui s'achève par lui, avec lui et en lui, et là, tout le peuple répond ou chante Amen. Donc comme une adhésion, vraiment, à tout ce qui vient d'être dit avant, toute la prière eucharistique. Et donc c'est du coup ensemble, prêtres et laïcs, nous disons ensemble la prière du corps qui est le Notre Père. Et donc le Notre Père est le sommet en quelque sorte de cette prière eucharistique. De même, le service du corps, du coup, sur la table eucharistique, va trouver son déploiement dans la vie du chrétien, qui est le service du corps, c'est-à-dire le service du corps du Christ, du corps mystique, c'est le service de l'autre, c'est le soin de l'autre. Alors dans une famille... d'abord le soin conjugal mutuel, ça, c'est vraiment important, au nom du Christ, je dirais, pas seulement au nom du lien naturel, enfin du lien conjugal naturel, mais au nom du Christ, soigner le corps de son, c'est la vie même de son conjoint, comme on soigne la vie même, comme le Christ soigne lui-même la vie de notre corps, on l'a vu en prêchant, mais aussi en guérissant, en donnant à manger, c'est un ensemble. Tout ce qui touche le corps touche l'âme. Hein. J'avais été très impressionné quand j'étais à l'hôpital, le fait que les infirmières fassent du bien à mon corps, ça me faisait un bien à l'âme dingue. J'avais vraiment l'impression que la personne, c'est plus qu'une impression, mais me faisait un bien total, en fait, pas seulement soigner ma mécanique, mais en fait, c'était très global. Voilà, donc le service du corps, il est là, bien sûr. Alors, il est là aussi plus, je dirais, plus... Dans un déploiement plus profond encore, dans le fait que le service du corps mutuel nous révèle l'un l'autre ce que nous sommes. C'est celui qui... Enfin, nous révélons l'un à l'autre ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu et vraiment des temples de l'Esprit et une présence du Christ. C'est pas à nous de dire je suis une présence du Christ. Enfin, si ce n'est peut-être dans la liturgie, au moment où il dit « ceci est mon corps », évidemment, ce n'est pas le corps d'Arnaud Gauthier. Ça, vous l'avez tous compris. Et pourtant, je dis « ceci est mon corps ». Donc, on comprend bien là qu'il y a comme une identité sur le moment. Mais en dehors de ça, voilà. Mais c'est l'autre qui me révèle cela, en fait. Et donc, ce service du corps, ce n'est pas seulement un service un peu utilitariste et matérialiste, même d'un point de vue spirituel, c'est « tu me révèles qui je suis ». Par la façon dont tu es avec moi. Et aussi la façon dont tu me permets d'être devant toi. Qui avait un lien fort avec son grand-père. Je me souviens très bien que mon grand-père, la façon dont il me parlait, les sujets abordés, la façon dont il était avec moi, m'ont fait énormément grandir parce que je me sentais homme devant lui. Enfin, adulte, homme, je veux dire, homme adulte. Et donc il me permettait d'être adulte. Vraiment. Et du coup, c'est ce soin du corps qu'il avait pour moi qui m'a fait révéler finalement qui j'étais devant Dieu. Un vrai frère, un chrétien qui est vraiment devant le Christ, devant le Père comme le Christ, comme son propre fils. Voilà, donc ce service du corps, vous voyez, il est très global, il est très large et très profond aussi. Et donc, c'est cette manière d'être chrétien dans le rapport à la parole et dans le rapport les uns aux autres qui trouve son sommet, son expression et son sommet dans la liturgie eucharistique. Et la liturgie eucharistique n'est pas que le sommet, elle est aussi la source de cet agir, de cette manière d'être, tant du point de vue de la parole que du point de vue du service du corps. Ça va ? Vous faites stop hein, quand ça ne va plus du tout. Et du coup, c'est ainsi que la communauté est en mission. Alors ça, c'est Jésus qui le dit lui-même. Hein. C'est à la manière dont vous vous aimez les uns les autres que vous êtes un témoin. Mais il ne s'agit pas la façon dont vous êtes, la manière dont vous vous aimez les uns les autres au niveau simplement qu'on a de l'affection l'un pour l'autre. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien sûr. Mais c'est pas ça, bien sûr. On le comprend à la lumière de ce que je viens de dire juste avant, qu'il ne s'agit pas de cela. C'est à la façon dont la communauté en mission accueille la parole, la comprend et la reçoit les uns, et se reçoit les uns des autres la parole. C'est parce que vous, dans ce que vous faites aujourd'hui, la façon dont vous écoutez l'autre vous dire ce qu'il a compris du texte de Marc, et la façon aussi dans la confiance que vous avez en l'autre de leur dire ce que vous avez compris, eh bien, c'est ça qui fait grandir et manifeste la charité que vous avez les uns pour les autres. Ce n'est pas les sourires et l'aimabilité. Je ne dis pas qu'il faut être désagréable avec l'un avec l'autre, ce n'est pas ça. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. De même, le service du corps, ce n'est pas seulement, bien sûr, donner à manger ou accueillir gentiment en étant convivial. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, évidemment. Mais c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire, il s'agit... du soin que j'ai de l'autre dans la totalité de ce qu'il est dans son identité, dans son cheminement, la façon dont je chemine avec lui, dont je suis avec lui, dont je l'écoute, dont nous nous rendons service, dont nous bâtissons un lien de confiance au nom du Christ. Et c'est ça qui rend la communauté missionnaire en étant seulement fidèle à ce qu'elle est elle-même, sans faire forcément des choses extraordinaires. Et si, s'il y a des choses extraordinaires à faire, elles vont découler de cet être, de la qualité de ces relations entre nous, assez naturellement, je dirais, sans bâtir des grands plans, vous voyez. Alors néanmoins, pour qu'il y ait mission, il faut quand même qu'il y ait contact. Et c'est l'aspect parvis. Donc le parvis d'une église, il appartient à l'église, ça fait partie du bâtiment, de l'ensemble. Et pourtant, c'est un lieu totalement ouvert. Il n'y a pas de mur, c'est ouvert. Mais vraiment, c'est quand même bien délimité. On sait quand on est sur le parvis qu'on est sur le parvis de l'église. Et ce qui trône au milieu du parvis, c'est la porte qui conduit là, non seulement à la communauté, et puis derrière la communauté, on pourrait dire derrière l'assemblée, quand on entre dans une église, il y a le mystère, c'est-à-dire l'autel et la présence eucharistique. Mais ce que la personne va d'abord rencontrer en se promenant dans la ville, c'est le parvis. Alors ce parvis, il peut être vide ou habité. Et donc l'idée, c'est d'avoir un parvis, bien sûr, habité. Alors c'est l'idée, c'est un petit peu l'idée de la fraternité Emmaüs, mais aussi du patronage. C'est un lieu qui est ouvert, qui est accueillant, qui est accessible. Alors il y a différentes... Enfin, il ne suffit pas d'être pour qu'on se rende accessible. C'est là où les enfants missionnaires sont très très, très forts, hein, par rapport au patronage ou même directement au catéchisme. Nous, comme adultes, c'est plus difficile, à cause de toutes sortes de raisons, de codes sociaux, de rythme de vie, d'engagement. Enfin, c'est pas simple. Et donc, il faut pouvoir créer un parvis par les fraternités Emmaüs qui permettent d'inviter facilement dans ces fraternités. Donc, il faut que nos fraternités elles soient dans un esprit de parvis, c'est-à-dire un esprit où elles sont faciles d'accès. Ça sera à travailler. Ça sera notamment, on va commencer à travailler ça, donc le 25 février. Ça sera un travail sans cesse à reprendre. Voilà, donc le parvis. Alors, le but du parvis, vous voyez, le parvis, il est porté, animé par la communauté en mission, on pourrait dire. Les portes sont ouvertes, et au bout d'un moment, eh bien, les personnes vont vouloir vivre ce que vit la communauté, et donc vont être introduits dans le mystère eucharistique. Mais ce n'est pas le mystère eucharistique qui est la porte d'entrée du parvis. On n'entre pas dans l'église par la sacristie et par le chœur. On entre par le parvis. Alors je ne dis pas que quelqu'un peut être un jour foudroyé spirituellement en passant dans une église alors qu'il est à des années-lumière de la foi. À Dieu, rien n'est impossible. Mais enfin, ce n'est quand même pas la voie ordinaire parce qu'on ne comprend rien à la messe, évidemment. Les textes sont incompréhensibles, les histoires incompréhensibles, les rites sont quand même assez étranges. Et puis ensuite, ce qui est affirmé dans l'Eucharistie est totalement irrecevable. Que ce bout de pain soit le corps du Christ, soit Dieu lui-même créateur, il faut être complètement dingue. Complètement dingue pour croire une chose pareille. Donc, ce n'est pas du tout une porte d'entrée. C'est un sommet, comme le dit le Concile, mais qui est aussi une source pour la communauté. Alors, il y a un élément qui est tout à fait capital, c'est la catéchèse, adultes et enfants. En fait, l'accès au mystère, il va être possible par la catéchèse. Donc, derrière catéchèse, vous voyez, ça passe par la scrutation de la parole et puis le service du corps. C'est l'intelligence de la foi telle qu'elle est portée par l'Église et le peuple juif, d'ailleurs, par la tradition, je dirais, judéo-chrétienne, depuis 3000 ans. Donc c'est vraiment l'intelligence de la foi de nos pères, c'est aussi le magistère de l'Église, qui permettent la bonne, je dirais, une coordination fluide C'est, je sais ce que je fais dans l'Eucharistie, je sais d'où je viens, je sais ce que ça nourrit en moi, et je suis capable aussi d'en parler, notamment dans la communauté en mission sur le parvis. On pose des questions, ceux qui passent posent des questions, et il faut pouvoir répondre de façon intelligente et équilibrée. Hier, j'accueillis un homme d'origine bretonne qui a épousé une Colombienne, très catho-colombienne, dans la tradition, vraiment, Amérique du Sud, vous voyez, catholique. Donc, c'est très traditionnel et ça, c'est très bien. Mais alors, son mari qui est breton sans la foi et vous voyez, dans la tiédeur de l'Église, des communautés chrétiennes souvent. Donc lui, alors là, il était un peu, totalement en décalage par rapport à sa femme et à sa fille et à la petite dernière qui devait être baptisée. Et donc sa femme, qui aimait beaucoup, qui aime son mari, a intrigué pour que je puisse le rencontrer et lui a accepté. Et donc on a pu discuter. Et en fait, en discutant pendant une heure, tout s'est levé tout de suite. C'est-à-dire, il est reparti à fond, il était à fond pour le baptême de sa femme, de son enfant. Il avait parfaitement compris la place qu'il avait là où il en était dans la vie spirituelle. Il n'était pas du tout non-croyant, en fait. Il avait une vraie vie spirituelle, une vraie quête spirituelle personnelle qu'il m'a suffi de valoriser, de situer dans un ensemble. Et hop, tout à coup, tout était clair et il était très heureux. Et du coup, il retrouvait sa place aussi vis-à-vis de sa femme par rapport à ses enfants. Il comprenait qu'il avait un rôle à jouer, etc. Et un rôle spirituel à jouer. Donc ça, c'est la vertu de la catéchèse, vous voyez, qui nous rend capables d'expliquer par la raison la cohérence de ce qui est vécu dans le mystère, mais avec jusqu'au parvis, enfin avec la vie, quoi. Parce que derrière le parvis, il y a la vie, quoi, il y a la ville. Enfin, ça, il n'y a que la catéchèse qui peut offrir ça. Et c'est nécessaire. Sinon, on se bloque, on est l'un contre l'autre, on dit « Ah, vous n'êtes pas croyant, c'est pas très grave, du moment que vous laissez votre femme faire le travail. » Le gars, il est exclu du truc et exclu de son couple, quelque part. Donc c'est fou. Ça, c'est la catéchèse qui permet ça. Oui. Oui. Ah ben, il a une vraie quête spirituelle, c'est, il cherche Dieu. Ah oui, donc Flavien me dit, mais cet homme, par rapport à Dieu, il en était où? Et donc il a reconnu tout à fait qu'il était d'origine chrétienne, il n'était pas baptisé, mais et puis qu'il avait une quête spirituelle, qu'il cherchait Dieu. Mais dès lors que je l'ai mis aussi un peu à l'aise par rapport aux autres religions, à sa quête un petit peu large, je lui parlais de Saint-Augustin, de toute la quête vraiment des plus chaotiques de Saint-Augustin, qui est le plus grand penseur chrétien catholique aujourd'hui. Bon, ça l'a mis à l'aise, quoi. Il s'est dit, j'ai de la marge, j'avance, je commence comme Saint-Augustin, je terminerai peut-être comme lui. Vous voyez, d'emblée, vous voyez, mais il faut se situer. Et du coup, il comprend. Et puis du coup, il voit aussi que j'accepte, évidemment, qu'on a tous notre chemin. Je lui ai dit, votre femme, elle monte par la montagne sur un sentier, mais vous montez aussi par un autre sentier, mais vous montez aussi sur la montagne. Et vos enfants, ils vont avoir besoin de l'écho des deux. Et lui, on voit bien, il apporte une liberté spirituelle, déjà, que je pense sa femme a moins, parce qu'elle est plus dans des traditions très sociales et très... Donc ça, quand on peut exprimer ça, le dire clairement, eh bien, les gens sont libérés, quoi. Après, il a encore du chemin à faire, bien sûr, mais ça, c'est bien. Le chemin fait déjà partie du salut, c'est déjà le salut. Hein. Alors, mon rêve de pasteur, évidemment, c'est une paroisse comme étant une communauté eucharistique, au sens donc que je viens d'expliquer, éducative et missionnaire. Éducative et missionnaire, finalement, ça va un peu ensemble. C'est l'accueil de la vie qui vient à l'éducation. C'est ne pas recevoir les jeunes comme une concurrence par rapport à moi et ce que j'ai vécu, mais me mettre au service de la vie qui vient, c'est de la jeunesse qui vient, et parce que je l'accueille comme le Christ lui-même. Le Christ est la vie qui vient. Le Christ qui vient, c'est la vie qui vient. Se mettre au service de la jeunesse, c'est se mettre au service du Christ qui vient. Et se mettre au service de la jeunesse, c'est se mettre au service de la jeunesse selon ce qu'est un homme, selon l'anthropologie, comme on l'a vu, c'est-à-dire la conception de l'homme, quoi. Donc c'est pas seulement être sympa avec eux, c'est en étant sympa avec eux, bien sûr, mais en les faisant grandir dans les différentes dimensions de la personne humaine. Missionnaire, du coup, ben, vous l'avez compris, en fait, en étant eucharistique et éducatif, on devient missionnaire, je dirais presque naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer beaucoup, parce que si la communauté devient vraiment un lieu de vie où on a le droit de venir petit et de grandir, et d'être en échec, et malgré tout de continuer son chemin, eh bien, à ce moment-là, on devient un lieu éducatif et un lieu vivant qui attire, forcément. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je crois vraiment que éducatif, c'est pas seulement parce que le curé a, je sais pas quoi, a passé un peu dans l'éducation, ou parce que faut bien être un minimum éducatif, parce qu'on a quand même des enfants au caté. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est que si la paroisse n'est pas un lieu de vie, c'est-à-dire qui accueille la vie, qui l'accompagne dans sa croissance et dans ses échecs et dans ses souffrances, notamment vis-à-vis du handicap, je pense, eh bien, à ce moment-là, la paroisse n'est plus un lieu de vie. Et à ce moment-là, si la paroisse n'est plus un lieu de vie qui sert la vie, alors on est mort. En fait, on ne le sait pas, mais on est mort. Et une des raisons pour lesquelles j'ai dit oui pour venir ici, bon, plutôt du genre à dire oui à mon évêque, enfin, comme c'était en dehors de Paris, je pouvais facilement dire non, j'avais le droit de dire non. C'est quand on m'a dit, bon, il y a quand même 250 enfants au caté, autant à l'aumônerie, il y a des scouts. Bon, ça, je me suis dit, c'est une paroisse qui accueille des enfants au caté, qui accueille des familles. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais il y a un fait qui est là. Donc ça, je me suis dit, bon, ben, on peut travailler, on peut faire quelque chose. En tout cas, il n'y a pas besoin de 10 ans pour se réveiller, quoi, je pense que... C'était un petit peu un critère, la communauté qui accueille la vie. C'est bien de faire des manifs pro-life, hein, moi je suis tout à fait pour. C'est encore mieux de se dépenser pour accueillir la vie au nom du Christ. C'est-à-dire la vie de non seulement ses propres enfants, mais aussi la vie qui nous est confiée au nom du Christ, en quelque sorte. Donc, d'où le caté, l'aumônerie, le patronage, l'écolo, etc., tout ce bazar. Mais c'est au service de ça. Que ça fait. Donc ça, c'est pour vous dire aussi un petit peu la cohérence de l'ensemble. Accueillir la vie dans l'Eucharistie, dans la parole et dans la jeunesse, on pourrait dire, dans les enfants, dans la jeunesse qui vient, et qui arrive et qui nous pousse très vite, pas vers la tombe, mais enfin, bon, un peu quand même. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Hein. Oui, oui, ça nous... ça va. Alors, du coup, vous savez, Petit Clair, Jean-Marie Petit Clair, avec qui j'ai un peu travaillé quand, à Paris, j'ai monté une école d'éducateurs, notamment pour les responsables d'aumônerie et pour les responsables d'enseignement catholique. Et donc, j'avais besoin de profs. Il a fallu que je recrute une vingtaine de profs. Et, entre autres, Jean-Marie Petit Clair, qui est un type super, donc c'est un Salésien. Après-demain, c'est à Saint-Jean-Bosco. On a déjà célébré une messe cet après-midi avec les enfants du patronage, un peu en avance pour Saint-Jean-Bosco. Et donc lui, il dit toujours, pour l'école, pour les enfants, il y a deux lieux. Il y a la famille, d'abord, c'est le lieu vraiment source, centrale. Il y a l'école, et puis il y a un troisième lieu. Et ce troisième lieu, l'enfant va le trouver. Et si on ne lui donne pas, il le choisira tout seul. Et donc l'idéal, c'est de pouvoir offrir à l'enfant un troisième lieu qui soit le plus riche possible et qui l'aide au maximum. Et l'Église a vraiment une carte à jouer là, en étant un troisième lieu possible. Il y a pas le club de foot, il peut y avoir, la musique, le conservatoire, et il peut y avoir la paroisse. Voilà. Dès lors que la paroisse est ce lieu, est une communauté eucharistique, éducative et missionnaire. Et du coup, on devient un partenaire de la famille, de l'école. Demain, je vais voir le maire de Morcourt pour des affaires immobilières ici, et aussi pour le projet ici, parce qu'entre autres, il y a les questions des brebis, donc il y a des questions sanitaires, enfin bref. Mais vous voyez, le fait que je vienne voir le maire, nous serons plusieurs, mais dans une perspective éducative, en disant, voilà, on est là pour accueillir des enfants, pour les faire grandir dans toutes les dimensions de leur personne, et puis on fait les choses concrètement pour le faire. Le maire, lui, il a aussi ses écoles, il a son centre aéré, c'est lui qui a créé le centre aéré Morcourt, en plus. Et lui-même, en plus, est un éducateur, un ancien éducateur. Donc il est très sensible à ces questions-là. Mais du coup, on est crédible, si vous voulez. On parle de gens qui s'occupent d'enfants, dont on peut dire les prénoms et dire où ils en sont aujourd'hui. De même avec une directrice d'école. Quand j'étais aumônier d'aumônerie à Paris, il y a 20 ans, J'allais voir le proviseur, parce que c'était systématique. Là-bas, on allait voir le proviseur au moins une fois par an. Et on parlait des cas de tel et tel enfant. Bien, quand on parle d'éducateur comme ça, elle faisait sortir tous les sixièmes à 11h le matin, tous les sixièmes de son lycée, pour que les cathos aillent à l'aumônerie. Et il y en avait un tiers de cathos. C'est pas rien, mais enfin, quand même, il y avait deux tiers qui n'y allaient pas. Mais c'est parce qu'il y avait cette relation d'éducateur. On était crédible, en quelque sorte, comme éducateur. Parce qu'on se coltinait les gamins, quoi, c'est tout. On vivait ça. Voilà. Donc, tant pour une famille que pour une école, une paroisse ainsi est crédible.